Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
h 15, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1. On va parler de l'assurance chômage. On est avec Marc Toiti, vous êtes économiste, vous avez publié un très bon livre qui s'appelle Reset 2, je redonne le titre pour nos auditeurs et téléspectateurs. Bienvenue dans le monde d'après. Là, on y est dans le monde d'après. Le gouvernement a fait passer sa nouvelle réforme. Il est question d'une baisse de la durée d'indemnisation de 25% pour tous les demandeurs d'emploi à partir du 1er février. Les syndicats sont vent debout, vous le savez. On va juste écouter Olivier Véran, qui est le porte-parole du gouvernement, qui estimait ce matin sur l'antenne de CNews qu'il était normal que l'assurance chômage s'adapte aux besoins et aux périodes plus ou moins difficiles du marché du travail. Écoutez-le.
L'esprit de l'assurance chômage, c'est l'esprit du Conseil national de la Résistance. C'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où l'État, à l'époque, sous l'égide du général de Gaulle, a dit « Il y aura des périodes au cours desquelles les gens ne pourront pas trouver de travail parce que le marché du travail sera trop tendu. Alors, il faudra les assurer pour pas qu'ils perdent tous leurs revenus. » Cette logique de l'assurance, c'est celle qui guide la réforme que nous proposons aujourd'hui. Et il est normal que quand le risque est élevé, l'assurance soit forte, et quand le risque est faible, l'assurance soit un peu moins forte.
Voilà pour Olivier Véran, porte-parole du gouvernement.
Marc, tu n'as pas très bien compris la référence au général de Gaulle, encore une fois. Parce que...
Conseil national de la résistance.
Okay. Non, certes, enfin bref.
Bon, qui va être pénalisé dans cette réforme de l'assurance chômage? Est-ce que tout le monde va être pénalisé, tous les demandeurs?
Alors, pénalisé, ça dépend. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, on avait jusqu'à 24 mois, effectivement, d'indemnisation. Là, ça va être réduit de 6 mois, donc on va passer à 18 mois. En cas, on va dire, de bon taux de chômage, c'est-à-dire le niveau actuel, hein, on est autour des 7,3%, mais si le taux de chômage remonte au-delà des 9%, ou alors s'il augmente de plus de 0,8 points sur un trimestre, bon, ça fait un peu usine à gaz, mais si effectivement le marché du travail se dégénère, entre guillemets, alors là, on revient aux règles précédentes. Là, effectivement, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on a énormément de ce qu'on appelle de pénurie de main-d'œuvre. Ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent embaucher, qui ont du business, qui ont des carnets de commandes, mais il n'y a personne en face. Et donc, c'est vrai que dans le même temps, certaines personnes se disent, finalement, ben, j'ai jusqu'à 24 mois pour continuer de travailler, de toucher l'indemnisation chômage, pourquoi m'arrêter en si bon chemin? Donc, c'est par rapport à cela. Alors, attention, on ne dit pas que les chômeurs sont volontaires, bien entendu, mais c'est vrai que...
On ne dit pas qu'ils sont tous des feignants. Hein,
exactement, non,
si
ils sont moins sans faux.
Mais c'est vrai que... À quel point ils cherchent du travail pour certains d'entre eux.
Ce qu'il faut savoir, c'est que les 24 mois d'indemnisation, c'est une sorte de piège. Parce que quand on reste comme ça, je dirais, 2 ans sans emploi, on perd de ce qu'on appelle son employabilité. On n'est plus dans le marché du travail. Et donc, c'est vrai que, parce que là aussi, on oublie souvent de le dire, on a la chance de vivre en France. La France, qui est le pays où l'indemnisation chômage est la plus longue. En Allemagne, c'est 12 mois.
12 mois.
En Italie, c'est entre 6 et 12 mois. Ça dépend les cas. Mais vous voyez, donc, il n'y a quasiment aucun pays où on a plus d'indemnisation chômage que nous. Alors par contre, le problème, c'est que, comme son nom l'indique, c'est une assurance. Donc nous, quand on travaille, ben, tous les mois, on cotise pour cette assurance. Donc là, c'est la difficulté. On a cotisé pour justement un système, et là, on est en train de le changer entre-temps. Donc c'est vrai que...
On va voir,
encore une fois, mais moi, le vrai enjeu, ce qui est important, c'est de bien comprendre que en réduisant cette indemnisation, la durée, encore une fois, d'indemnisation du chômage, on risque quand même d'avoir un marché du travail qui soit plus dynamique. C'est-à-dire certaines personnes se disent, j'ai pas 24 mois, j'ai plus que 18 mois, donc
ça va obliger les gens à chercher du travail. Avant de passer la parole à mes amis, j'ai encore une question à vous poser. Parce que le ministre du Travail dit, OK, ça va créer instantanément 100 à 150 000 emplois.
Est-ce que ça
veut dire qu'à chaque personne à qui on va réduire l'indemnité chômage, on va lui proposer un travail?
Non, mais ça, c'est comme les 35 heures. On disait qu'on va passer aux 35 heures, la différence de ton travail, ça va créer des emplois. Ça, évidemment, il n'y a aucun modèle économique qui le montre. Non. Ça, il faut bien prendre conscience qu'il n'y a pas de lien de cause à effet, parce qu'on va réduire cette indemnisation chômage, que globalement, on va créer X milliers d'emplois. Parce que le gros problème qu'on a aujourd'hui sur le marché du travail, c'est la formation. C'est-à-dire que pourquoi également il y a des pénuries de main-d'œuvre? Parce qu'il n'y a pas la main-d'œuvre en face avec la formation souhaitée. C'est-à-dire que les entreprises veulent embaucher, mais c'est pas un problème de chômage, c'est que les gens sont au chômage parce qu'il n'y a pas la formation encore une fois, souhaitée par les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, par exemple, j'étais au chantier naval il n'y a pas longtemps, c'est à Saint-Nazaire, sans faire de pub, hein, c'est un fleuron français, bien
magnifique.
Entendu, un magnifique.
Magnifique.
Et donc, ils me disaient qu'en fait, comme ils ne trouvaient pas la main-d'œuvre adéquate, ils ont créé leur propre école en interne pour justement avoir cette main-d'œuvre. Donc c'est assez incroyable. On a l'éducation nationale la plus coûteuse du monde et on a des entreprises qui ne trouvent pas, encore une fois, les qualifications qu'elles souhaitent. C'est comme quand on parle de la réindustrialisation. C'est super comme terme, bien entendu. Mais ouais. Encore une fois, comme ça fait depuis des décennies qu'on dit on veut plus d'industrie, il n'y a pas encore une fois aujourd'hui la formation, l'éducation nationale qui a produit ces formations.
Les fauves sont lâchés. Louis Dragnel et après Eric Revel.
Moi, je souscris entièrement à tout ce que vient de dire Marc Touati. Je suis totalement d'accord avec ce que vous dites.
Bon, et merci
vous...
alors.
Vous le dites bien, je l'aurais dit. Une toute petite nuance. Non, je pense simplement, il y a une difficulté qu'on connaît tous, c'est tous les ce qu'on appelle les seniors qui ont des difficultés à trouver du travail. Et je trouve que autant sur quasiment toute la réforme, il n'y a pas de débat, je souscris à tout. En revanche, je trouve qu'il faudrait aménager quelque chose pour les personnes de 55 ans et plus qui n'arrivent pas.
Les seniors, c'est-à-dire, Louis ?
J'ai dit 55 ans et plus.
Non, mais parce qu'ils sont considérés comme seniors sur le marché du travail aujourd'hui.
À partir de 55 ans et plus.
C'est vrai que aussi, ça c'est un palliatif, parce qu'il y a beaucoup de personnes justement à partir de 55 ou au-delà. On leur dit, ben voilà. Comme on n'a pas trop envie de vous embaucher, de vous employer, entre guillemets, on va vous donner donc des indemnités donc de votre carrière, plus le chômage, et hop, vous arrivez à l'âge de la retraite et vous partez.
Donc là, c'était un peu hypocrite.
C'était une grande hypocrisie.
Système,
oui. Donc là, on ne pourra plus faire. Alors par contre, il y a aussi des professions qui ne sont pas concernées, par exemple les intermittents du spectacle. C'est-à-dire que bon, j'ai rien contre eux. Hein,
L'outre-mer n'est pas concerné, intermittents, les dockers.
Le trou annuel, si vous voulez, le déficit annuel des intermittents du spectacle, c'est quand même 1 milliard d'euros. Donc, mais eux, on ne les touche pas.
Les expatriés.
Oui.
Les expatriés aussi. Mais il y a aussi les expatriés, Marc Petit. Les expatriés ne sont pas concernés par cette réforme.
D'accord, mais dans ce que je veux dire, c'est encore une fois, on veut faire une réforme globale, puis on maintient quand même quelques avantages ici, on ne sait pas trop pourquoi, mais on sait pourquoi.
Non, mais globalement, c'est pas
très bien pour ça. C'est pas. Je trouve que c'est pas très
sain.
Pas très réglé.
Alors, bon, d'abord, c'est une bonne chose. Je pense qu'il vaut mieux travailler qu'être chômeur, parce que même si les 35 heures ont écrasé l'idée, le travail, ça demeure un intégrateur social. Non, mais c'est un point important.
Et la création de richesses.
Et la création de richesses. Bon, il y a quand même un sujet, j'insiste sur les seniors, pour une raison très simple, c'est que leur période d'indemnité va être raccourcie, même si l'employabilité des seniors a progressé en France. Alors, on était très loin dans le classement CDE, mais ça va mieux, mais n'empêche qu'on vire la plupart du temps des gens entre 50 et 55 ans. Si vous rajoutez à cela le fait qu'avec la réforme des retraites, on va sans doute décaler l'âge de départ à la retraite, alors, mon cher Marc Touati, les seniors qui sont virés à 50 ans ou à 55 ans, ils pourront pas vivre sur les indemnités qu'on va leur couper, sur indemnités chômage, sur les indemnités qu'on leur verse quand ils quittent l'entreprise, puisque précisément, on va repousser la borne de leur départ à la retraite. Donc pour les seniors, c'est un vrai, vrai sujet. Deuxième question qui est fondamentale, vous en avez un peu parlé, c'est que, bon, il y a une vision un peu logicielle des 150 000 emplois créés en 2023. Parce qu'en réalité, c'est ça aussi, la rigidité du marché du travail. Et c'est pour ça qu'on ne trouve pas des soudeurs, peut-être, au chantier de Saint-Nazaire. C'est qu'en fait, un chômeur, il n'est pas interchangeable. Quelqu'un qui a été viré sur tel poste, on peut lui en proposer un autre, mais si effectivement il n'a pas la formation en face, il ne pourra
pas... Mais il y aura un gros effort de formation qui est annoncé par le gouvernement.
C'est un peu la tarte à la crème, formation. Ouais, c'est-à-dire, en fait, encore une fois...
Mais heureusement qu'on forme les chômeurs.
Encore une fois, le problème que nous avons aujourd'hui, alors, un exemple simple, même pour les jeunes, on a pléthore de bac plus 5 en histoire de l'art. J'adore l'histoire de l'art, si vous voulez, mais les débouchés sont quand même pas formidables.
Non, mais ce que je veux dire par là,
c'est
que...
Mais ça, c'est le vrai sujet politique.
C'est la clé.
Il
faut les orienter.
C'est-à-dire qu'il faut leur dire. Mais c'est comme les facs de sociologie, c'est toutes ces questions. Mais vous avez entièrement raison. Ce qu'on peut faire aussi, c'est inciter davantage les jeunes en leur disant très rapidement, assez jeunes, dès l'âge de la troisième, la seconde, voilà les secteurs qui recrutent le plus et voilà la formation, les filets. Mais moi, je peux vous dire que je ne savais absolument pas ce qui permettait. Mais vraiment pas.
Mais
je devais être plus bête que les autres.
Mais non, mais on sait tous où il y a du travail et où il n'y en a pas.
Mais pas forcément.
Et aussi expliquer à
certains jeunes qui sont en seconde, première, terminale, que telle formation universitaire est peut-être très intéressante, mais elle donne lieu à très peu de débouchés.
Peut-être que le monde de l'entreprise n'est absolument pas connecté.
Mais bien sûr,
on retrouve quand même un problème presque philosophique qui est né effectivement du coronavirus. C'est qu'on a laissé croire qu'on pouvait en fait rester chez soi, avoir un salaire qui tombe, et on a dévalorisé le travail. Ça a commencé avec les 35 heures, mais ça continue aujourd'hui.
Qui était dévalorisé.
Et donc c'est ça qui est incroyable. J'entendais, je ne sais pas dans quel aéroport, on me dirait que en fait les bagagistes demandaient du télétravail. Bon, c'est compliqué, mais ce que je veux dire, mais c'est une histoire vraie, hein, c'est pas une blague.
Mais comment donc, on peut faire du travail voilà,
ils ont dit pourquoi nous on n'a pas le droit voilà, dans ce
comme un aéroport français. Vous pouvez pas.
Donc,
donc voilà le problème, c'est qu'aujourd'hui, n'oublions pas que le travail, même quand on est senior, c'est ce qui donne la création de richesse, c'est ce qui donne effectivement le revenu. C'est ça le plus important aujourd'hui. Donc il faut, et ça va être un gros boulot, je pense, de revaloriser effectivement le travail pour toutes les générations.
Alors Eric Revel, et après on parle de l'inflation.
Qui a fait débat hier avec Louis de Ragnel, c'est que quand vous réduisez la période indemnisable de 6 mois pour des chômeurs, vous réduisez en volume les indemnités qu'ils auraient touchées sur l'intégralité de la période. Mmh. Donc c'est un vrai sujet quand c'est même. Parce que puisqu'on parle de pouvoir d'achat et d'inflation, ces gens-là, ils vont quand même être amputés.
En fait, on ne touche pas au plancher mensuel, mais la somme globale qui est versée.
Effectivement, je vais donner un conseil. Concret, justement. Il ne faut pas attendre justement les 24 mois ou les 18 mois. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a la possibilité, justement, si on crée son entreprise ou autre, d'avoir la somme quasiment tout de suite ou en deux fois. Ça, c'est plus intéressant. C'est-à-dire que globalement, on a la somme, et après, on peut soit créer son entreprise, soit retrouver notre boulot ailleurs. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme ça, on a la somme, et on peut ensuite, effectivement, retrouver une certaine employabilité, créer son entreprise et autres. Il ne faut pas attendre 18 mois ou 24 mois, parce que là, on s'enferme, et c'est le piège, justement.
Ça, c'est le piège. Un petit coup de booster.
Allez, un petit mot de l'inflation, Marc Toiti. Là, on attend des
sommets. Elle va continuer. Si vous voulez, le problème, c'est que nous,
chiffres, disait Michel-Édouard Leclerc.
C'est déjà le cas aujourd'hui. Hein. Oui, quand on regarde l'inflation pour les ménages modestes, vous savez, qui ont une part de l'alimentaire ou de l'énergie qui est plus élevée que pour les autres, dans leur panier moyen, elle est déjà à 12% l'inflation. Donc là, simplement, on savait qu'on avait des boucliers tarifaires, etc. Ils sont en train de
s'estomper. Là, ils tournent à la pompe, ça y est. C'est presque fini.
Ils tournent, on serait à combien en inflation?
On serait à 12 après. 12-13
aujourd'hui.
Oui, à peu près. Après, de toute façon, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire qu'il faut bien prendre conscience qu'on ne peut pas éviter l'inévitable. Donc les 10% d'inflation, on va les avoir. Encore une fois, moi, j'ai annoncé ça.
De vous réjouir.
Parce que j'ai annoncé ça en 2021 ou encore dans le livre. Et on me dit, l'inflation, c'est pas vrai, ça n'arrivera jamais. Mais on a des indicateurs avancés. Vous voyez, les prévisions, elles ne tombent pas du ciel. On a ce qu'on appelle les prix à la production que payent les entreprises et après, elles répercutent sur les prix de vente. Eh bien, ça fait déjà plusieurs mois qu'on est entre 25 et 30% de hausse.
Donc, Marc, ça va donner quoi en janvier? Parce que. Ça va être terrible en janvier. Franchement,
on a malheureusement.
Le bouclier tarifaire va diminuer.
On a une inflation qui est en train de monter, effectivement, vers les 10%, je pense, pour le début d'année. Donc, c'est vrai que là, malheureusement, le drame de cette forte inflation, on sait comment ça se termine. Ça se termine avec une récession. C'est-à-dire que, effectivement, comme on ne peut plus consommer comme avant, donc la consommation baisse. Et une fois que la consommation baisse, donc la demande baisse, et donc c'est là où les prix vont baisser. Donc, l'inflation va quand même finir par baisser à partir de la mi-2023. Sauf, civilement, il y a une nouvelle guerre ici ou là. Mais clairement, on va rester sur une inflation élevée. Mais par contre, on va passer par la case récession.
Donc après, chômage.
Exactement. Donc chômage. Donc là, c'est pour ça que la réforme, à mon avis, elle sera pas forcément
mise. On passera peut-être au-dessus des 9%.
Non. Peut-être pas. Non, quand même pas.
Parce que moi, ça me paraît l'objectif.
Il faut 800 000 chômeurs.
Pas tout de suite.
Plus, je crois, en
9%, c'est beaucoup.
Janvier difficile, très difficile pour tout le monde.
Je pense que ça, on a même 6 mois difficiles. 6 à 9 mois. Ça ira mieux, je pense, mi-2023. Faut être honnête. Moi, je vous bégaye.
Vous avez raison.
Tout va bien dans le monde.
On veut la vérité.
Mais je suis là pour dire la vérité.
Attendez, on laisse terminer Marc.
Et le danger de cela, c'est qu'en plus. Ça, c'est l'inflation conjoncturelle. Mais il y a également une inflation structurelle. Ça veut dire qu'elle est toujours là. Quand on parle, effectivement, de la transition énergétique, ça coûte cher. Hein, quand on veut développer ou s'équiper des nouveaux moyens, ça a un prix. Donc ça veut dire que l'inflation, elle va rester élevée. Alors, pas à 10%, mais quand même à 3 à 5% durablement. Alors que nous, on était habitués, toute notre génération, on avait l'inflation entre 1 et 2%, ce qui était sympathique. Là, c'est plutôt, vous voyez, on est un étage au-dessus, entre 3 et 5. Donc, pour beaucoup de ménages, ça va être particulièrement compliqué, malheureusement.
Eric Revel.
Non, puis je voulais juste dire que si on repassait au-dessus de 9% de taux de chômage de la population active, ça consacrerait surtout l'échec de la politique économique du gouvernement, puisque officiellement, on vise 5% en 2027, c'est-à-dire un taux incompressible. Donc,
on
les aura pas non plus. Et puis, si on peut avoir une petite pensée pour Raymond Barre.
Ah mais
vous savez pourquoi?
Grand homme politique
français. Parce qu'il avait un aphorisme magnifique sur l'inflation que Marc doit connaître. Il disait l'inflation c'est comme un tube dentifrice. Quand vous appuyez dessus, la pâte sort, mais après pour la faire rentrer.
Alors, je ne sais pas si la citation n'était pas de Charles Pasqua, mais pour les étudiants.
Ah non. Charles Pasqua qui parlait
peut-être
d'inflation.
Peut-être il l'a reprise.
Peut-être.
Non, étudiants, des magnifiques.
Ah d'accord. Oui bon il a.
Non, il a repris Raymond
Barre. La théorie du dentifrice s'applique à beaucoup de sujets.
Pour l'inflation. Non mais c'est vrai que le problème c'est qu'on a laissé filer l'inflation. Là il faut le dire encore une fois. L'inflation elle n'est pas née avec la guerre en Ukraine. C'est parce que on a généré après, en 2021, donc après le Covid, on a trop augmenté la dette publique, on a fait ce qu'on appelle la planche à billets, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne a financé cette dette publique, également au niveau mondial. C'est ça qui a généré l'inflation. Donc c'est-à-dire, on avait, c'est la règle de base de l'économie, hein, la demande supérieure à l'offre, effectivement, les prix augmentent. On sait exactement ce qui s'est produit, sauf que maintenant, alors qu'il fallait réagir, regardez, aux États-Unis, l'inflation est en train de baisser. Vous savez combien il y a d'écart entre l'inflation américaine et l'inflation de la zone euro ? 3 points. Eux, ils sont tombés, ils sont retombés à 8,7, ouais. à 7,7. Nous, on est à 10,7, quand je prends la zone euro.
Mmh. Mais en augmentant fortement les taux.
Et voilà, aux États-Unis. Oui, certes, mais encore une fois, ça a permis de contrôler un petit peu cette inflation. Nous, elle est devenue complètement incontrôlable. Il y a encore dernièrement Mme Lagarde qui nous disait ah ben, l'inflation, elle vient de nulle part. Merci. Incroyable. Présidente de la Banque Centrale Européenne. C'est son métier de limiter l'inflation. Il dit non, l'inflation, elle vient de nulle part. Bon. Il faut prendre le tour par les cornes.
18h30, on va faire un petit point sur l'actualité avec Adrien Spiteri.